donc démarrer notre avant-dernière séance matériaux et assemblage. Alors pour rien vous cacher, la conférence de Bernadette Bensaud que certains d'entre vous écoutaient ce matin était prévue initialement cet après-midi. L'intégration avec les sciences humaines a fait que Bernadette avait des impossibilités cet après-midi, qui fait qu'elle a présenté sa conférence ce matin. Donc dans mon introduction, je vais peut-être dire des choses qu'elle a déjà dites, beaucoup mieux que moi d'ailleurs ce matin, et qui nous permettra donc d'introduire nos deux conférenciers de cet après-midi. Je voulais dire un mot donc sur les matériaux, et plus précisément ce qu'on appelle les matériaux de fonction. Eh bien, l'établissement des corrélations entre la structure intime d'un matériau ou bien d'un système moléculaire qui a été conçu et la propriété qu'il exprime en réponse à une sollicitation requiert une collaboration étroite entre chimistes, physiciens, mécaniciens et formulateurs. On en a vu un exemple hier à travers la formulation des médicaments. Sur ces bases et grâce à une approche multi-échelle, qui est censé corréler les échelles moléculaires, nano- et mésoscopiques, puis finalement macroscopiques, des matériaux les plus divers, de type céramique, verre, métaux, polymères, ont pu être élaborés pour une multitude de fonctions et mis désormais sur le marché. Même lorsqu'il s'agit de l'optimisation de propriétés macroscopiques de matériaux, de structures développées pour l'aéronautique et le transport même en général, ou bien pour le nucléaire dans des conditions extrêmes, eh bien, il s'avère que l'approche d'un chimiste, vous avez deviné tout de suite que je l'étais, et avec sa vision moléculaire, peut s'avérer décisive, en particulier dans les approches bottom-up. Un mot sur l'échelle des nano-objets, qui, je crois que ça a déjà été dit par un de nos conférenciers, la notion de nano-objet à l'échelle nanométrique est une notion plus ou moins large. Je crois qu'on abordera peut-être à nouveau ce problème tout à l'heure, une façon d'obtenir de l'argent, comme on dit, être actuellement s'intéresser à tout ce qui concerne les nanosciences, c'est une source indiscutable de ressources, donc tout le monde se met à fabriquer des nano-objets. Alors ce que je voulais dire plus sérieusement, c'est que ces matériaux qui sont destinés à remplir des fonctions à une échelle macroscopique, puisque c'est à cette échelle qu'on va les utiliser, il est clair que ces matériaux relèvent donc de ce domaine qu'on appelle les nanosciences et que c'est un domaine qui est actuellement en plein essor. La chimie peut y jouer un rôle majeur parce qu'elle a une excellente maîtrise des voies de synthèse d'objets nanométriques. Et donc, son rôle, à côté des autres disciplines, est fondamental. La possibilité de pouvoir scruter la matière aux échelles méso- et nanoscopiques, le fait maintenant avéré que l'organisation et les défauts décelés à ces échelles conditionnent les propriétés macroscopiques d'un matériau. Bon, je vais mettre un peu le bémol qu'a mis Étienne ce matin. Le fait de maintenant avérer que l'organisation et les défauts décelés à l'échelle conditionnent les propriétés macroscopiques d'un matériau ont naturellement amené les chercheurs à s'intéresser aux propriétés spécifiques de la matière lorsque sa taille et caractéristique est inférieure à 100 nanomètres. Un exemple des particules d'or qui, à l'échelle de 3 nanomètres, présentent une excellente activité catalytique alors que l'or, sous sa forme macroscopique, est totalement inerte. On a vu un autre exemple d'agrégats d'atomes d'argent qui jouent un rôle clé dans la photographie noir et blanc aussi. L'étude de ces agrégats a permis relativement tardivement de comprendre le principe de la photographie. Ce rapport donc entre propriétés moléculaires et propriétés macroscopiques, et en particulier des propriétés mécaniques, dont on en verra un exemple tout à l'heure, démontre combien il est important d'étudier en fait les problèmes de surface de ces nano-objets. De manière plus générale, on peut attendre des nano-objets qu'ils diffèrent de leurs homologues macroscopiques en raison, premièrement, d'une modification du rapport surface-volume, deuxièmement, de l'apparition de niveaux d'énergie discrets en surface, qui est dû, on explique très simplement, par la frustration, en quelque sorte, électronique des atomes qui sont à la surface. L'augmentation de cette surface spécifique peut par exemple exalter l'activité aux interfaces, en particulier pour les chimistes l'activité catalytique, tandis que la modification de la densité électronique et des niveaux d'énergie des atomes de surface est susceptible d'affecter profondément les propriétés magnétiques, optiques et électroniques. On comprend et réalise dès lors le formidable enjeu que représente l'essor des nanosciences et le potentiel applicatif qu'il offre au plan fonctionnel. Un mot maintenant sur les nanomatériaux. Le degré de sophistication atteint par exemple par la synthèse chimique est tel qu'il est aujourd'hui possible de construire un nano-objet autour d'une propriété donnée. En fait, on rejoint une démarche un peu de technologie, puisqu'on va pour un cahier des charges donné lié à une propriété qu'on veut utiliser, exploiter, on va fabriquer un objet qui va contenir dès le départ les propriétés qui vont le rendre utilisable. La création d'un objet est une étape fondamentale et les chimistes ont développé toute une série de méthodes permettant d'assembler des agrégats d'atomes, de nanoparticules métalliques ou bien des macromolécules de géométrie variable et douées de propriétés particulières. Mais la synthèse et l'étude des nano-objets n'est qu'un préalable. Le but à atteindre est la synthèse de matériaux doués de propriétés précises et exploitables. Le nano-objet isolé n'est pas un matériau. En l'absence d'assemblage et donc de mise en forme, il restera une curiosité de laboratoire. Une des problématiques qui se pose est donc l'assemblage à des échelles supérieures et la répercussion que cela entraîne au niveau des propriétés macroscopiques. Les chercheurs disposent donc pour ce faire de toute une panoplie d'interactions de type covalent, liaison hydrogène, ionique, ou tout un jeu d'interactions moyennes de type van der Waals, ou longues, type dipolaire à distance. Parmi les constructions les plus remarquables, on peut citer les matériaux hybrides, associant par exemple des briques inorganiques à un liant organique, qui sont de bons candidats pour des dispositifs bifonctionnels ou encore des systèmes biomimétriques. Je pense que Bernadette, ce matin, a fortement développé cet aspect des choses. Dans un autre registre, la proportion de la matière molle, c'est-à-dire toute matière capable d'une réponse viscoélastique à une sollicitation extérieure, a s'auto-assemblé sous forme d'objets supramoléculaires de formes variées, par exemple des micelles directes ou inverses sous forme sphérique, des bâtonnets, des bicouches, et quelque chose qui est parfaitement connu à l'heure actuelle. Cette propriété remarquable est mise à profit pour construire et mettre en forme des nanomatériaux fonctionnels et adaptatifs, capables de remplir plusieurs fonctions de manière interactive. C'est l'exemple même de la stratégie bottom-up qui a donné lieu d'ores et déjà à des résultats spectaculaires, ou des curiosités, par exemple les pneus verts de Michelin, ou des systèmes électro- et photoluminescents. En solution, l'auto-assemblage est mis à profit pour générer des nanoréacteurs destinés aux fonctions de solubilisation et de transport. La localisation et l'arrangement organisé des réactifs dans des assemblages collectifs permettent d'obtenir des résultats exceptionnels en réactivité. C'est ainsi que des hautes concentrations interfaciales de solutés conduisent en solution à des réactions qui n'ont lieu en général qu'à l'état solide, avec évidemment une augmentation considérable de la vitesse réactionnelle. Et ceci peut se traduire par des sélectivités, des stéréosélectivités élevées. Ainsi, la juxtaposition de plusieurs groupes fonctionnels rassemblés dans un petit domaine définit un environnement analogue à celui qu'on trouve dans les sites actifs des enzymes, réalisant ainsi la construction d'enzymes artificielles. S'il est maintenant bien acquis que tous les domaines relevant des matériaux fonctionnels, technologie de l'information, transport, production d'énergie, santé, séparation et reconnaissance, vont fortement évoluer grâce à l'émergence des nanosciences, force est de constater que les relations entre les briques de base et les propriétés résultant de leur auto-assemblage font encore défaut et que l'expérimentateur est souvent contraint à un certain empirisme. Il y a donc là un fort effort cognitif et prédictif des nanosciences à réaliser pour que les domaines relevant des systèmes et des matériaux fonctionnels continuent à évoluer. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction de cet après-midi. Et pour un petit peu, j'allais dire, justifier la présence de nos deux conférenciers de cet après-midi. Donc, le premier, il va nous parler d'électronique moléculaire. Je vais le présenter dans un instant. Et le deuxième va nous parler de polymères et donc d'une approche moléculaire qui permet justement de prévoir en quelque sorte les propriétés du polymère à l'échelle macroscopique.